La manifestation, c'est pas une fin en soi. La manifestation, c'est pour porter une ambition. Nous, on a manifesté, et je pense qu'on l'a fait très sérieusement. Je rappelle qu'il y a un an, pendant 15 jours, sans blessés, sans atteinte aux biens ni aux personnes, c'était un cri d'alarme. Ce cri d'alarme, nous l'avons dit, il doit se concrétiser. Et nous sommes dans cet état d'esprit-là.
Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, à la sortie de Matignon. Tout à l'heure, les agriculteurs ont enfin été reçus. Aujourd'hui, un an après la grande mobilisation de janvier 2024 qui leur avait valu le soutien d'une grande partie des Français, un soutien qui avait ensuite volé en éclats lorsqu'ils s'étaient mis à jouer Baby Shark avec leur klaxon de tracteur. Une erreur stratégique majeure. Bonjour Étienne Fourmont.
Bonjour.
Vous êtes agriculteur, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe, très impliqué dans la défense de votre métier, notamment donc sur les réseaux sociaux. 130 000 personnes sont abonnées à votre chaîne YouTube où vous partagez votre quotidien, vos coups de gueule. Étienne Agri, YouTuber, beurre comme du beurre, évidemment. Vous avez d'ailleurs été l'objet d'un portrait dans cette émission par Quentin Luis, qui est un peu l'antichambre de la gloire. Est-ce que c'est important, voire indispensable aujourd'hui pour un jeune agriculteur, en plus de sa charge quotidienne de travail qui est énorme, d'être présent sur les réseaux sociaux?
Alors, ce n'est pas indispensable, heureusement, parce que sinon, ça serait compliqué qu'on le fasse tous. Mais c'est pour moi, c'est vraiment un loisir que j'ai à côté de la ferme.
C'est une soupape aussi pour vous?
Ouais, c'est vraiment... en fait, moi, j'étais très engagé dans le syndicalisme jeune agriculteur. Alors, il y a quelques années maintenant, j'ai passé l'âge. Et puis, en arrêtant le syndicalisme jeune agriculteur, parce que voilà, j'avais plus le temps, j'avais plus l'âge, je me suis rendu compte, en étant sur les réseaux sociaux, qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient d'agriculture, mais qui malheureusement connaissaient pas du tout le sujet, et on entendait des grosses bêtises, ouais. Et j'ai commencé à répondre, voilà, je me dis, ah non, on travaille comme ci, comme ça, les vaches ça sert à... enfin on fait du lait comme ça et tout, et puis les gens posaient des questions et j'ai vu que les gens étaient intéressés, et puis j'ai commencé à faire des petites vidéos et j'ai vu que ça marchait, et donc j'ai continué et j'ai aussi écrit un livre.
Et justement, on va en parler. Le plus célèbre des agri-youtubeurs répond aux idées reçues sur l'agriculture. Peace and Food, c'est votre livre aux éditions Hugo Doc. Plus de régulation face aux défis environnementaux, moins de régulation parce que les normes les étouffent. Quelles sont les vraies demandes des agriculteurs et surtout, sont-elles compatibles entre elles, entre le vigneron du Bordelais et l'éleveur sartois? Qu'est-ce qui peut sauver l'agriculture française? À en croire les TikTok de notre invité, visiblement pas les manifs.
Les manifs, ça va bien 5 minutes, mais ça me casse les couilles à la fin.
À l'instant, ce SMS de Dominique Seux, bien dit Étienne. Zoom zoom zen, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, quel bonheur de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures pour décrypter notre époque sans oublier d'en rire. Et enfin, après 470 émissions aujourd'hui, l'imposture Quentin, lui, va exploser au grand jour. Quentin qui, depuis 2 ans, pour cultiver sa singularité par rapport à Manon, se présente comme un enfant de la terre, un rural, originaire de la campagne alençonnaise.
Ah, plus
où,
que vous.
Où à l'écouter, il serait né quasiment à même le foin d'une étable, d'un père palefrenier et d'une mère maraîchère bio qui faisait des journées de 16 heures et ne se voyait qu'une fois par mois pour...
La bouillarde.
S'aimer, Quentin, s'aimer, A-I-M-E-R. Mais ça, c'est sûr que c'est un concept qui vous dépasse. Le colonel nous écoute, il le sait.
France Inter. Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël.
Ça va trop loin, cette histoire. Avec, je dois m'excuser auprès d'un chien.
C'est vous qui êtes allé trop loin avec ce gentil chien qui était notre invité.
Gentil, oui.
Et que vous avez insulté maintes fois.
Alors,
Étienne, on va évoquer la colère, mais aussi le quotidien des agriculteurs que vous documentez dans votre chaîne YouTube. Étienne Agri-Youtubeur. Juste le temps de vous présenter mon cheptel à moi, élevé en plein air, sans pesticides, à commencer par celle qui, en plein dry January, a finalement décidé de voler au secours de la filière viticole en revenant sur son vœu de sobriété dès le 11 janvier. Et pour cause, si la Marianoche ne boit plus, c'est tout le Bordelais qui s'effondre économiquement. Là. Manon, ce dry January fut donc une aventure de courte durée.
J'ai bu 2 verres, ça
mais
va.
C'est cassé, mais c'est cassé.
Ça suffit pour mettre fin au dry January.
Soulez. Déjà, je comptais ne pas vous le dire. Je comptais vous le cacher.
Ah, c'est raté. Sait, tout, la France le sait. Tout,
ça faisait longtemps, il vous manquait. C'est alors bon. aujourd'hui, Manon, dans votre veille sanitaire, le décryptage des réseaux sociaux, vous nous parlez d'Andrew Tate.
Eh ben oui, c'est le retour d'Andrew Tate dans ma veille sanitaire et l'influenceur masculiniste ne nous avait pas manqué. Sa nouvelle lubie, devenir le prochain premier ministre britannique. Ça nous fait sourire, mais il faut le prendre très au sérieux. Je vous explique pourquoi dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Étienne, il a donc passé 2 ans à nous faire croire qu'il était un expert de la ruralité, alors que la vision de son blouson Valentino Rossi aurait fait tourner le lait de n'importe quelle vache. Quentin, chaque après-midi, vous nous rapportez un article qui vous a marqué dans la PQR.
Et si au lieu d'importer, on produisait, direction le Lot-et-Garonne, où l'on fait pousser un légume tropical très original, c'est dans le journal Sud-Ouest que j'ai chopé cette info.
Avec nous également, comme chaque après-midi, faudra-t-il bientôt présenter sa carte d'identité avant de pouvoir visualiser ses célèbres photos en slibard sur Instagram? Tout est possible car de nouvelles règles viennent d'entrer en vigueur. Bonjour Marie de Breuer.
Bonjour, et oui, aujourd'hui on va parler de la nouvelle limitation à l'accès au porno pour les mineurs avec une double vérification. Et ne t'inquiète pas Quentin, c'est avec une pièce d'identité, pas de contrôle au faciès.
Il y a la taille.
Tu devrais pouvoir consulter toujours tes petits sites préférés, mon copinou.
Enfin, il peut en témoigner car il l'a vécu dans sa chair ce week-end. Et il n'y a qu'un truc pire musicalement que... quelque chose qui donne plus envie de se tirer une balle et surtout d'avoir plus réfléchi avant de faire un gosse, Disney sur glace. Oui, samedi, Cyril Lacarrière, qui contre toute attente est un bon père de famille, a pris sur lui pour emmener ses enfants voir des gens patiner sur les classiques de Disney. Il n'y avait pas Candeloro, mais c'était affreux quand même, commenta-t-il encore sous le choc ce matin. Cyril, chaque après-midi, vous nous livrez les trois infos qu'on aura hâte de raconter ce soir à la maison, au programme du Lacarnews.
Un point de vue, c'est l'imitation de Quentin.
Il vient de comprendre la blague.
Vous imitez bien, Quentin.
Un point télé, qui sur la 4, qui sur la 13? Est-ce qu'il va y avoir un bloc de chaîne d'infos?
Ah oui.
Jeff Bezos en galère avec sa grosse fusée. Et vive le sport, c'était pas juste une punchline de Gérard Rolls, c'est aussi bon pour la santé.
Le Lacarnews, ce sera juste avant la demi. Mais d'abord, alors que les syndicats sortent de leur réunion avec Bayrou, Étienne Fourmont, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe et youtubeur, est avec nous cet après-midi pour parler de crise agricole. Étienne, les syndicats mettent la pression sur le gouvernement depuis plusieurs mois maintenant. Les agriculteurs, ils n'ont pas tous les mêmes exploitations, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Est-ce qu'il y a quand même un dénominateur commun à ce qu'on appelle vulgairement la crise agricole?
Bah, le dénominateur commun, on va dire que c'est le manque de revenus global, que ce soit peu importe le syndicat dans lequel on est, peu importe la taille de la ferme qu'on a. Je pense que globalement, c'est le manque de revenus qui pénalise le plus les agriculteurs et les agricultrices françaises.
Quentin.
Pour le moment, il n'y a que le syndicat, la coordination rurale, qui menace de bloquer Paris pour se faire entendre. C'est quoi ce syndicat et pourquoi les autres comme la FNSEA, les jeunes agriculteurs dont vous avez fait partie, ou la Confédération paysanne ne le suivent pas dans cette démarche? Et pourquoi le monde agricole a l'air si morcelé?
Alors ça a toujours existé, la coordination rurale, enfin toujours, ça doit faire une, je pense que c'est un syndicat qui doit avoir une trentaine d'années à peu près, 30 ou 40 ans. C'est comme partout, on est humain, donc on n'a pas tous les mêmes idées, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Et du coup, voilà, il y a plusieurs
syndicats. Le même bord politique aussi.
Ouais, alors oui, le même bord politique, encore que dans le syndicalisme agricole, la politique, oui, depuis quelques années, elle prend de la place. Mais j'ai envie de dire qu'à la création de la coordination rurale, je ne sais pas si c'était le moteur premier, quoi. Je pense que c'était vraiment un mésaccord ou une mésentente entre les agriculteurs pour savoir comment fallait résoudre les problèmes, quoi. Donc on a créé plusieurs syndicats.
La loi agricole doit être débattue prochainement, c'est le nerf de la guerre, on l'attend depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qu'elle doit contenir selon vous, cette loi? C'est quoi l'urgence des urgences?
C'est que les agriculteurs et les agricultrices français et françaises vivent dignement de leur métier. Voilà, je pense que c'est ça le plus important. Après, il y a plein d'autres choses à côté qui sont hyper importantes pour qu'on arrive à ça. Une facilité les négociations avec les GMS, par exemple.
C'est quoi les GMS, pardon?
Les grandes et moyennes surfaces. Donc voilà, c'est tout ce qui est Auchan, Leclerc, Carrefour, tout ça. C'est faciliter l'installation. Voilà, aujourd'hui, un parcours à l'installation, c'est très compliqué.
Pourquoi c'est compliqué?
Parce que c'est l'État français, donc il y a des tonnes de papiers à remplir, il y a des tonnes de demandes à faire, et c'est long, l'administratif est extrêmement long en France.
Simplifier toutes les démarches.
Voilà, simplifier les démarches. Il va y avoir aussi, on va dire, un peu l'allègement des contraintes administratives qu'on peut avoir sur le dos, contraintes qui vont être administratives, environnementales, sociétales, toutes ces choses-là qui sont très lourdes à porter aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à simplifier un peu les choses pour qu'on puisse gagner notre vie et produire aussi ce que le consommateur demande.
Les syndicats demandent des prix minimum garantis, ça veut dire quoi?
Ça veut dire, comment l'expliquer en deux heures simplement, hein. ça veut dire gagner notre vie, quoi, tout simplement, hein. Donc c'est ça, donc c'est des négociations, en fait, comme je disais à l'instant, hein, c'est faciliter les négociations avec les grandes et les moyennes surfaces, avec les agro-industriels aussi, parce qu'aujourd'hui c'est pas toujours simple d'aller agriculteurs, nous, négocier face à ces grands groupes-là. On est très nombreux,
ils sont trop puissants.
Eux ils sont plus fort. En fait, c'est un peu un entonnoir. Vous avez des centaines de milliers d'agriculteurs, vous avez quelques grandes surfaces, quelques grandes centrales d'achat, et il faut arriver à condenser tout ça, et c'est très complexe.
À suivre, les chaînes de la TNT changent de numéro. L'ARCOM vient d'annoncer le détail, Cyril vous dit tout. Juste après, Serge Gainsbourg, Requiem pour un con sur Inter.
de les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même.
C'est le bon côté du réchauffement climatique. On peut désormais faire pousser des fruits tropicaux dans le Lot-et-Garonne. Quentin s'en émerveille et vous raconte ça dans un instant. Mais pour l'heure, l'agriculteur le plus connu des réseaux sociaux, Étienne Fourmont, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe, est avec nous. Étienne, j'ai pas encore mentionné en détail ce livre, Peace and Food, le plus célèbre des agri-youtubeurs, répond aux idées reçues sur l'agriculture. Un livre que vous avez publié il y a quelques mois chez Hugo Doc. C'est quoi les idées reçues les plus répandues sur l'agriculture aujourd'hui?
Oh là, et alors il y en a deux grandes, on va dire, idées reçues qu'on a sur l'agriculture. C'est d'abord la première. On va partir sur deux sujets un peu clivants. La première, c'est que ce qu'on entend beaucoup, c'est que on maltraiterait nos animaux et qu'on utiliserait beaucoup de pesticides. Voilà. On va dire, on a ces deux idées-là qui nous reviennent constamment sur les réseaux sociaux. Moi, quand j'y suis, j'essaie d'expliquer que les animaux, je suis tous les jours avec, donc je travaille avec. Donc, si je veux avoir des bonnes conditions de travail, il faut que mes animaux aient des bonnes conditions de vie. Si je veux avoir un revenu à peu près décent, il faut que mes animaux aient aussi des bonnes conditions de vie, parce que ça va avec. Et pareil pour les produits phytosanitaires, les pesticides. C'est des produits qu'on utilise en fonction du besoin pour soigner, parce que ça, c'est comme ça, c'est pour soigner la plante, pour pas qu'elle soit attaquée par une autre maladie, par un champignon, par une mauvaise herbe. Et donc, j'explique comment on peut utiliser tout ça.
On entend souvent de la part des consommateurs, et surtout depuis la crise de l'inflation, que ça coûte trop cher de manger des produits français.
Oui.
Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que vous le constatez aussi?
Alors moi, ce que je constate, c'est que dans le budget des ménages, l'alimentation, ça représente plus grand-chose. Je crois qu'on est à peine à 17 ou 20%, je crois, quelque chose comme ça. Alors qu'il y a 50 ans, on était quasiment à 40 ou 50%. Donc ça coûte quand même de moins en moins cher de manger, c'est une réalité. Dans cette partie-là, en plus du budget alimentation, nous agriculteurs, on n'en touche que 4-5%. Donc je peux vous assurer qu'il ne nous revient pas lourd. Donc manger coûte plus cher, je ne pense pas. Manger bien demande du temps et peut-être un peu plus d'argent. Ça, c'est une réalité.
Est-ce que vous avez le sentiment d'être suffisamment considéré? On voit que Bayrou a reçu les syndicats aujourd'hui, à un jour de son discours de politique générale. C'est peut-être un peu tard, vous êtes un peu la cinquième roue du carrosse. Comment vous ressentez les choses?
Au niveau politique, bon, au niveau politique, ça fait, je veux pas dire que ça fait un an ou ça fait un an et demi que c'est le blackout total, quoi. Enfin, je pense que même dans toutes les professions, j'ai envie de dire. mais on a l'impression que, bah oui, bon, c'est même pas une impression, c'est qu'il se passe plus rien du tout. On est dans le flou total. Les dossiers ont besoin d'avancer. La loi d'orientation agricole a besoin d'avancer. Nos revendications ont besoin d'avancer. Malheureusement, on change de premier ministre tous les 2-3 mois. Donc c'est
C'est un peu cliché ce que je vais vous dire, mais il y a quand même une émission très suivie sur M6 qui s'appelle L'amour est dans le pré. On suit des agriculteurs dans leur quotidien. Non, mais c'est vrai.
Ah bah
elle est présentée par Karine Le Marchand.
Elle reprend
même
ce soir.
Oui, ça reprend ce soir, qui était même présente à des manifestations.
Oui, oui, oui.
Vous en pensez quoi, vous, de L'amour est dans le pré?
Je regarde pas, donc je pourrais pas vous dire.
Mais sur le principe,
ce genre de médiatisation, c'est bien.
Alors, je vais être un peu dur. Je l'ai regardé au début, je regardais, je trouvais ça intéressant, et j'ai l'impression qu'on tombe dans des clichés maintenant du vieux paysan célibataire et qui cherche l'amour. Et alors bon, il y a quelques jeunes dans l'histoire, mais. Ça me donne cette impression que voilà, parce que je connais aussi bien le métier, donc.
Oui, parce que ça médiatise quand même des métiers qui sont inconnus de la majorité des gens.
Des citadins, en tout cas.
Ah oui! Voilà.
Oui, des citadins.
Non, mais des néo-ruraux. Hein, les néo-ruraux, globalement, ne connaissent pas l'agriculture. Hein, ouais. Je pense que si on regarde, si on demande aux gens comment est fait l'agriculture, comment sont cultivées les plantes, personne ne sait comment ça fonctionne. Après, L'amour est dans le pré, c'est très bien, parce que ça fait parler du monde agricole. Ça fait parler, par contre, ça ne fait pas parler des vrais problèmes, des techniques un peu compliquées de culture.
C'est pas politique.
Voilà, exactement.
Ce que vous faites, vous, par contre, sur la chaîne YouTube, c'est aborder ces thèmes-là, vous présenter votre ferme. Oui. Peut-être un mot sur la ferme. À Viré en Champagne, vous êtes coincé entre la Sarthe et la Mayenne, quasiment.
Exactement. Mais je suis sarthois quand même, hein. Je suis pas mayennais, faut pas
l'oublier. Ah oui,
ne dites pas n'importe quoi, Quentin.
Il y a des guerres de village, très bien. Peut-être un mot pour décrire l'exploitation.
Oui. Alors
ça
moi,
ressemble à quoi chez vous ?
Alors, je suis la 5e génération sur la ferme. Donc, c'est vraiment une ferme familiale. Donc, on a des vaches laitières. Enfin, maintenant, j'ai des vaches laitières parce que quand je me suis installé, j'ai commencé avec mes parents, hein, comme mon père avant moi a commencé avec son père, etc. Maintenant, je suis tout seul. Je suis le seul gérant de la ferme. J'ai une salariée, sinon. Et j'ai des vaches laitières. J'ai à peu près 120 vaches laitières.
Ah oui.
Voilà, ce qui est une bonne moyenne, parce que la moyenne en France est de 65 ou 70 vaches laitières, je ne sais plus exactement. Donc j'ai 120 vaches laitières, 90 hectares, ce qui est plutôt petit dans ma région. Et voilà, et deux robots de traite qui m'aident grandement tous les jours à travers les vaches.
Et on embrasse votre salarié qui vous permet de fanfaronner aujourd'hui à Paris.
Voilà.
Il va tenir un petit peu l'exploitation.
Même pas parce qu'elle en a
travail,
donc j'ai oublié de faire le boulot tout seul aujourd'hui.
Ah bah bravo. Vous écoutez France Inter, il est 17h26. Un frisson a parcouru ce matin le blog Suckin' Rock'n'Roll, le site des fans de U2 qui aiment bitcher sur les autres fans de U2 qui connaissent un peu moins bien U2 qu'eux. Suite aux propos énigmatiques de The Edge, qui a annoncé ce week-end que le groupe allait bientôt sortir un nouveau titre, espoir rapidement douché par Cyril, le fondateur évidemment de Suckin' Rock'n'Roll. Vous emballez pas les gars, U2 c'est les spécialistes pour annoncer des trucs qui ne se font jamais, comme Quentin lui avec notre sortie karting.
Ça va venir.
Une info trop incertaine, donc figurée dans le Lacarnu.
Mais oui.
Non, là, c'est sérieux, c'est les trois infos qu'il ne fallait pas manquer cet après-midi. On commence, Cyril, par les numéros du jour.
Attention, ça va être le bazar sur vos télécommandes. Les chaînes vont changer de numéro.
L'expression de ton génie.
Ouais, t'as vu, ouais. Pas toutes les chaînes vont pas changer, mais beaucoup. Ça commence dès le numéro 4. Comme Canal a décidé de quitter la TNT, c'est France 4 qui va s'y installer. France 2, France 3, France 4, France 5. Le service public est en bloc aux avant-postes. L'Arcom s'est d'ailleurs justifié de vouloir créer des blocs. Le bloc attendu, c'était celui des chaînes info. BFM passe du numéro 15 au numéro 13, CNews monte aussi d'un cran, chaîne numéro 14, et grosse promotion pour LCI et France Info Télé, qui passent respectivement des numéros 26 et 27, donc loin sur la TNT, au numéro 15 et 16, on verra si ça a des effets sur leurs audiences. C8 et Énergie 12 qui ont été éjectés, ce sont LCP et la chaîne pour enfants Gulli qui prennent leur place. Et puis les deux petites nouvelles, la chaîne du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky sera sur la numéro 18 et celle de West France le 19. C'est un bouleversement pour le paysage audiovisuel. Il va pas plaire à tout le monde, surtout pas à BFM qui a tout fait pour que sa concurrence reste loin d'elle. Mais comme on regarde de plus en plus la télé via des applis et de moins en moins en zappant avec sa télécommande, si effet il y a, ça sera un effet qui sera vite dissipé. En tout cas, mise à jour de tout ça le 6 juin.
C'est fou que la modernité ne vous a pas échappé, ouais. Cyril, on l'a bien noté.
La zapette.
La bonne résolution du jour.
Faites du sport. Alors, ce n'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus vrai et ça vous permettra de vivre vieux. Faire du sport, c'est même plus un gage de longévité que d'être mince. Et oui, c'est une découverte de scientifiques américains. Selon eux, une personne obèse mais en bonne condition physique a environ 2 fois moins de risque de mourir prématurément qu'une personne qui fait un poids normal mais qui n'en glande pas une. Alors attention, il suffit d'un rien pour améliorer son espérance de vie. L'étude révèle que de la simple marche rapide peut vous faire passer de la catégorie des 20% les moins endurants à celle des 20% les plus endurants. Quentin, c'est parti pour la marche rapide.
Mais on fait tous ici de la marche rapide quand on travaille à Radio France. Les couloirs sont tellement longs. Ah, moi je marche très rapidement.
Avec vos grandes jambes. Vous avez très grandes jambes, c'est ça, ça n'a rien à voir.
Enfin, Cyril, le fail du jour.
Elle est grosse, mais elle ne décolle pas. Elle, c'est la nouvelle fusée de Jeff Bezos. Elle s'appelle New Glenn, nouvelle Glenn. Elle fait 98 mètres de haut, c'est la taille d'un immeuble de 30 étages. Mais New Glenn ne parvient pas à décoller, la faute à la météo, dommage. Cette maxi-fusée doit permettre au patron d'Amazon de rattraper Elon Musk. Mais Musk, qui ne compte pas en rester là, pour la peine, lui aussi, il construit encore plus gros. Sa fusée s'appellera Starship. Et oui, c'est comme un concours de zizi, mais dans l'espace.
Merci Cyril. Ah, le jingle, le fameux jingle, on ne s'en lasse pas. Étienne Fourmont, tout cet argent qu'on dépense sans compter pour envoyer des fusées toujours plus grandes dans l'espace et qui parfois ne décollent même pas, vous qui êtes sur le plancher des vaches, ça vous inspire quoi? Enfant, vous rêviez de l'espace ou vous avez toujours trouvé que c'était une dépense d'argent inutile?
Ah non, j'ai toujours rêvé de ça, moi.
Ah oui,
j'adore ça. Ah bah, moi, voir les atterrissages des fusées d'Elon Musk, ça me fascine.
Ah oui.
Vraiment, oui, je trouve ça merveilleux. Enfin, merveilleux, je trouve ça beau à regarder. Après, Elon Musk, bon, on en pense ce qu'on en veut, hein. c'est autre chose, quoi. Mais non,
la
j'ai
fusée en elle-même, ça vous fascine.
J'ai toujours été très geek, j'ai des robots traits, c'est-à-dire que moi j'ai des vaches qui se traient toutes seules en fait. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans un box.
Ah oui, et il y a la machine qui.
Il y a un bras robotisé avec un laser qui vient scanner la mamelle de la vache, qui vient brancher les quatre pies, qui tire le lait classique, comme on le faisait un peu avant, enfin comme on le fait encore aujourd'hui avec une machine à traire à la main. Et après, une fois que c'est terminé, hop, ça s'enlève, le box s'ouvre, la vache sort, et ça traite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Vous êtes dans le jacuzzi à côté.
Voilà, exactement.
Et je profite de la vie.
Exactement.
Ah, voilà la vraie vie des agriculteurs, enfin exposée sur France Inter. Comme Claude Allègre, lui, il aime voir le verre à moitié plein. Dans sa France, à lui, on parle de ce qui pousse dans le
rocher, Claude Allègre.
Les rêves. C'est
pas comme il aimait. Pardon. Petit ange parti trop tôt.
Ah oui.
Dans sa France à lui, on parle de ce qui pousse dans le Lot-et-Garonne grâce au réchauffement climatique, Quentin.
C'est le journal Sud-Ouest qui nous présente ce couple de producteurs, Lydie et Patrick. Ils posent fièrement pour la photo de l'article dans un local de stockage de leur exploitation à Port-Sainte-Marie. On est non loin d'Agen. Ils ont dans leurs mains un légume vert, pâle, en forme de poire, à la peau ridée, que j'ai sincèrement du mal à reconnaître. Normal, c'est la chayotte, aussi appelée le chouchou ou encore la Christophine. Est-ce que vous connaissiez la chayotte autour de la table?
Non, pas du tout.
Bon, c'est un légume tropical originaire du Costa Rica, particulièrement consommé en Amérique du Sud. Et dans les îles, à La Réunion, on en raffole, par exemple. Et si on l'appelle aussi la Christophine, c'est parce que ce satané biopirate de Christophe Colomb l'a ramené chez nous. Ceux qui ont la référence sont les vrais fans de Zoom Zoom Zen pour biopirate. Niveau goût, on est entre la pomme de terre et la courgette. De toute façon, en Amérique du Sud, c'est un peu leur pomme de terre à eux, confie Patrick à Élodie Viguier, la journaliste de Sud-Ouest. Alors, comment ils en sont arrivés à faire pousser de la chayotte et même du piment piquant des Antilles dans le Lot-et-Garonne? Eh bien, retour à leur début en 87, ils essaient la carotte, mais la concurrence est trop rude. Le melon, la Charente et la Vendée en faisaient déjà beaucoup. Et les fraises, oui, mais il y a eu le nuage de Tchernobyl. Patrick et Lydie nous rappellent qu'à cette époque-là aussi, l'agriculture traversait une sacrée crise. Et puis un jour, leur voisine, une petite mamie, leur présente ce légume qui pousse dans son jardin. Étrange, j'apprends au passage qu'il existe un quatrième surnom à ce légume, les couilles du pape. Très bien, très imagé. Et là, c'est le déclic. Ils font pousser ces bijoux de famille papale dans l'exploitation. Une production sous tonnelle entre 27 et 32 degrés, donc qui demande de la chaleur, mais pas trop finalement. Et surtout, ce légume tropical s'adapte au réchauffement climatique et donc de mieux en mieux aux conditions météorologiques du Lot-et-Garonne. Ce que le spécialiste Serge Jacquat nomme l'agroclimatologie. On avait fait une émission à ce sujet. Question prix, c'est plutôt rentable. La chayotte se vend entre 3 et 4 euros le kilo quand même, un peu comme la courgette, les poireaux ou les patates douces. Alors finalement, la meilleure lutte face au Mercosur n'est-elle pas d'utiliser le réchauffement climatique à notre avantage? Je vous laisse, j'ai une chayotte à éplucher.
Étienne Fourmont, voilà une vraie question. Merci Quentin. Vraie question, est-ce qu'on doit se servir du réchauffement climatique pour produire des produits qu'on importait jusqu'à présent?
Alors, on doit s'adapter. Ça, c'est une réalité. Donc, le changement climatique, il est là, malheureusement, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Donc, oui, on s'adapte en fonction. Je vois, moi, les dates de semis, les dates de récolte ont beaucoup changé. Les cultures qu'on pouvait faire il y a 15, 20 ans et celles qu'on faisait aujourd'hui, alors pas tellement moi en grande culture, blé, céréales, maïs, ça reste relativement classique, mais je vois par exemple chez des collègues viticoles, les cépages, les dates de récolte remontent, donc y a... oui, on s'adapte en fonction du changement climatique.
Elle a l'habitude de bruiter à la bouche ses chroniques, ce qui aujourd'hui, vu son sujet, pourrait nous conduire devant l'ARCOM. Non. N'est-ce pas, Marie?
Oui, ben, vous savez, la base de l'humour, c'est la mort, le caca et le cul. Et bien aujourd'hui, on va parler de cul.
Voilà.
Voilà, avec la nouvelle limitation à l'accès à la pornographie pour protéger les mineurs.
La chronique de Marie de Breur, c'est juste après Manu Chao et Laëti. Tout est vaste sur Inter.
Vivir sin ti es vivir muriendo, vivir así no lo recomiendo, y así que así yo sigo insistiendo, vivir sin ti es morir queriendo. Cuando tú te vas,
yo te amo jamás.
Clavarme espinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme espinas.
La mula m'apaise à peine, je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire, je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves, je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous.
D'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri. Tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège. Non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir.
Quoi que tu t'aimes,
je t'emmène. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie. À toi de faire ton choix.
La moula m'apaise à peine.
Je reviendrai jamais.
Partout je vois ton sourire.
Je reviendrai jamais.
Je dois exaucer mes rêves.
Cuando tú te vas,
vivir sin ti es mi desedrina. Me pone más que la cocaína que te revienta por la letrina. Vivir sin ti es clavarme espina.
Cuando tú te vas.
Je reviendrai jamais.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et si au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer cédait sa place à quelqu'un de plus compétent comme ce bon vieux Andrew Tate, ça tombe bien, il n'est pas en prison en ce moment, Manon Mariani posera la question dans sa veille sanitaire. Mais d'abord, l'heure de la grande marade a sonné avec Marie de Breuer. Une info a retenu votre attention, Marie, aujourd'hui. Depuis ce samedi, les sites porno devront mettre en place l'identification à double anonymat pour éviter l'accès à la pornographie aux mineurs.
Les mineurs, les gens de moins de 18 ans, hein, et non pas les mineurs, les gens qui travaillent dans des mines. Précision absolument pas nécessaire. mais voilà, j'ai regardé Billy Elliot ce week-end. J'ai eu envie de parler de Margaret Thatcher et de faire des pas de Blu-ray. Bon, depuis samedi, pour aller sur un site porno, il faudra se munir de ses papiers d'identité. Et bah, c'est assez dissuasif, même pour les majeurs. La dernière fois que j'ai voulu me trifouiller le bazar, bon bah, j'ai mis 20 minutes sur l'ordi à chercher le document scan passeport tiré du bas mariedebrouwer.pdf. J'ai cherché une main sur ma petite souris, l'autre sur mon gros matou. Chiquita, mon chat, évidemment, évidemment, je parle de mon chat, bande de dégoûtants. Bon, et ben en cherchant, je suis tombée sur des photos de vacances de 2023 en Grèce. Et ben je me suis branlée sur des photos de moi à la plage, en train de manger des petits souflaki, en fait. Voilà, hein. Et vous vous dites, ah, mais c'est dégueulasse. Alors que les souflaki, c'est des petites brochettes de viande avec un petit tzatziki, c'est excellent. Bref. Mais si c'est une galère d'aller mater du porno, on va devoir utiliser quoi? Notre imagination? Bah, c'est de la merde. Voilà, t'es là, tu te fais un scénario, genre t'es au resto avec Timothée Chalamet, Timothée Chamallow. Il te complimente comme un vrai gentleman, en mode... Oh yes, Mary, I love ta manicure. I love your chroniques on France Inter. Oh Mary, I'm gonna destroy your pussy. Ce à quoi tu réponds, mais Timothée, tu parles français, t'es con ou quoi? Tu kiffes ton scénario et d'un coup d'un seul, tu penses à la courgette que t'as achetée il y a une semaine et tu te dis, putain, j'espère qu'elle a pas pourri, la conne. Mais qu'est-ce que je pourrais faire, un curry? Des petites cacahuètes, pas mal. Puis là, t'es plus du tout excité, t'as juste la dalle. Alors, t'enlèves la main de la culotte, tu vas au frigo, et oh tiens, mon panier de légumes de saison. Mais qu'est-ce que je vais faire avec 5 navets et 2 topinambours? Vraiment, l'hiver, quelle saison de merde. Et là, en fait, oui, la courgette, elle a pourri. C'est plus une courgette, c'est du saucisson corse avec la fausse neige dessus, là. Oh. Mais Marie, c'est pas ton imagination le problème, c'est tes pensées en arborescence. Va falloir se le faire diagnostiquer, CDH, ma belle. Non, en plus, Timothée Chalamet, il m'excite même pas, j'ai dit ça pour la blague. Alors que le daron à Billy Elliot, là, quand il part au pied de grève, avec sa chemise de la veille, oh, trop sexy. J'ai pas la pensée en arborescence, ok. Bon, une bonne alternative hein, au porno traditionnel, celui avec les dames qui sont lisses comme des dauphins et qui hurlent dès qu'elles ont une demi-phalange dans le tiroir malice, bah bonne alternative, c'est le porno audio, éthique, féministe, voilà, j'ai testé, c'est pas mal. Non, si, c'est pas mal, c'est éthique et féministe. Donc moi j'aime bien, vu que c'est éthique et féministe. On va s'écouter un petit extrait. Quand Loïc retrouve Chloé, il est minuit au clocher de l'église. Qui regarde l'heure sur une église? Là, pas de portable, Loïc? Bon, bref. Loïc se penche à l'oreille de Chloé et lui demande « Je peux soulever ton t-shirt pour caresser tes seins ?» Ah, les chuchotements, je peux pas. Ah, ça me fout des frissons jusqu'aux genoux, mais de manière pas agréable, en fait. Bon, j'avance un peu. « Si tu m'y autorises, je souhaite savourer ta sève succulente de ton sexe avec ton consentement. » Mais il le fait exprès, ce connard! Ah, je peux pas, vraiment. Mais sur le principe, c'est super, hein, parce que c'est éthique et féministe. Loïc passe 45 minutes à demander à Chloé si elle va bien. Ça ressemble à ma sexualité, quoi. Énormément de discussions, très peu de pénétration. Sauf que j'ai jamais couché avec un Loïc. Ou avec du Madame Loïc, le fromage frais. Bon, bref, j'ai pas la pensée en arborescence, ok?
Merci Marie. Coucher avec du Madame Loïc, le fromage frais, une image qui hantera longtemps les nuits de Manon Mariani. À qui je propose de se recentrer sur notre thème du jour, la crise agricole. On en parle dans Zoom Zoom Zen avec cet après-midi l'agriculteur le plus connecté de France, Étienne Fourmont, que vous retrouvez sur sa chaîne YouTube, Étienne Agri YouTuber. Et je signale aussi votre livre Peace and Food, c'est aux éditions Hugo Doc. Étienne, on est d'accord que le mot agriculteur, c'est devenu un peu un mot valise aujourd'hui en France. La crise, elle frappe inégalement les agriculteurs selon les régions, selon les métiers, j'imagine.
Bonne question. Oui, alors... elle frappe quand même globalement le monde agricole. Oui, vous allez avoir différents types d'exploitations en France, différents systèmes de produire en fonction des régions, en fonction du climat, en fonction des sols, en fonction de ce qu'on a comme animaux chez nous, que ce soit des porcs, de la volaille ou des bovins. Donc il y a des années où le bovin va bien se maintenir, il y a des années ça va être le porc, il y a des années ça va être les céréales.
Oui, on peut pas savoir, c'est d'une année sur l'autre.
Ah oui, ça bouge énormément. On avait connu une année 2022 à peu près potable, et puis tout s'est cassé la gueule en 2023 et pour toutes les filières. Donc c'est vrai que aussi la grogne elle est là aussi. Sur le terrain, c'est parce que tout le monde morfle depuis un an.
Il y a une expression qui revient souvent, c'est la spirale de l'endettement concernant les agriculteurs. Est-ce que vous, par exemple, vous avez un crédit?
Ah oui.
Ah oui, vous en avez même plusieurs.
J'en ai même beaucoup. Alors, je vais être dur avec nous-mêmes, on va dire. Personne ne force personne à faire un crédit. Si les agriculteurs font des crédits, c'est parce qu'ils ont envie de le faire. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Et moi, j'aurais tendance à dire, j'ai investi dans des robots de traite, j'ai investi dans des tracteurs ou dans des machines ou dans des technologies parce que j'avais envie de le faire, pas parce qu'on m'a forcé à le faire. On m'a pas pris la main pour aller signer le crédit à la banque. Donc, c'est vrai que oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile. Oui, l'agricole, c'est un métier passion, mais peut-être que des fois, on voit un peu trop la passion et pas la réalité. Voilà.
Vous parlez de métier passion, vous disiez que vous êtes la cinquième génération sur l'exploitation. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants, éventuellement, vous suivent aussi?
Alors, j'ai deux garçons aujourd'hui.
Et ils sont déjà chauds pour reprendre
Ils ne sont pas forcément chauds pour l'instant. Bon, après, je ne les force pas. Voilà. S'ils ont envie de le faire, ils le feront. Ça sera vraiment un honneur. S'ils ne veulent pas le faire, ils feront autre chose. Je n'ai pas envie de les forcer parce que c'est un métier dans lequel, quand on se lance dans ce métier-là, on y donne sa vie. Hein.
Faut avoir de la passion.
Voilà, faut avoir quand même un peu de passion. Voilà, si moi vraiment, ils viennent avec moi, ils me donnent un coup de main.
Ils ont quel âge là?
Ils ont 10 et 15. Ouais. 11 et 15, pardon, je vais me faire engueuler.
Attention, c'est important cet âge-là. Quentin.
La paperasse, c'est quelque chose qui revient souvent dans votre discours. Ça représente quoi au quotidien pour un agriculteur en termes de temps ou peut-être une liste des papiers à faire?
Ouais. Alors en termes de temps, si je faisais un peu un comparatif, moi je me suis installé il y a 20 ans déjà, aujourd'hui. Il y a 20 ans, on va dire qu'on y passait peut-être 5-6 heures par semaine vraiment à faire du bureau, remplir des documents. Quoi. Aujourd'hui, on va quasiment être à une journée, deux journées par semaine de remplir des documents. Parce qu'on est arrivé à un stade où, ce que je peux comprendre, mais il faut tout justifier, tout déclarer. Malheureusement, à l'école, on ne nous apprend pas forcément ça. À l'école, on nous apprend à produire, comment faire du lait, comment élever des vaches, comment cultiver les sols. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, mais à mon époque, on nous apprenait pas à remplir des documents. À faire des déclarations, à comment on fait un contrôle sur la ferme, comment se passe un contrôle sur la ferme.
Vous faites accompagner là-dessus?
Alors oui, aujourd'hui, moi j'ai un centre de gestion, j'ai la chambre d'agriculture, moi je suis adhérent FDSEA qui m'aide aussi sur ces dossiers-là. Mais c'est obligé parce que honnêtement, je pourrais pas. Moi je fais vétérinaire, agronome, météorologue, électricien, plombier, mécanicien, économiste. Voilà, je gère tout ça. Donc il faut que dans chaque catégorie, il faut qu'on soit aidé parce que sinon c'est impossible, quoi.
Est-ce que c'est encore attractif le métier d'agriculteur aujourd'hui? Si on se contente, si on est citadin et qu'on se contente de la vision que nous en donnent les JT ou les chaînes
c'est
info,
horrible.
Franchement, c'est pas que c'est horrible, c'est qu'on se dit waouh, mais tout ce travail, c'est monstrueux. Qui a envie de faire ça aujourd'hui? Il faut être fils d'agriculteur aujourd'hui pour avoir envie de prendre une exploitation.
On a la chance en France d'être le monde agricole français installe par rapport à l'Europe le plus haut taux de. Bon, je vais l'expliquer simplement. On installe beaucoup de jeunes qui ne sont pas du monde agricole, voilà, pour le dire simplement. On a encore cette chance-là en France de pouvoir installer des jeunes qui ne sont pas issus du monde agricole. Alors, ce n'est pas la majorité des installations, évidemment, hein, mais on a encore cette chance-là parce que je pense qu'on a beaucoup ouvert. On a aussi des coûts d'installation qui sont un peu moins élevés que dans les autres pays européens, je crois, l'Allemagne notamment ou la Hollande, qui ont des coûts à l'hectare. Genre la Hollande c'est 100 000 euros l'hectare. Nous en France
100 000 euros l'hectare.
En France on va être peut-être à 5 000 euros l'hectare.
Ah oui c'est pas.
Parce qu'on a aussi contrôlé ça. On a mis des barrières. Donc on arrive encore à installer des jeunes, mais c'est vrai que c'est plus facile si on est du monde agricole et on a quand même la chance d'avoir des écoles agricoles nombreuses, pleines de jeunes. Moi je vois sur les réseaux sociaux, j'ai énormément de jeunes qui me suivent du monde agricole et qui sont passionnés, qui me disent ouais j'ai envie de faire comme toi plus tard et tout. Donc c'est génial, mais il faut bien montrer la réalité.
Vous écoutez France Inter, il est 17h46. Notre vie politique est une source constante d'émerveillement, mais nos amis anglais viennent de franchir un nouveau cap. Manon Mariani, un candidat inattendu veut briguer le poste de Premier ministre britannique en 2029.
Il a 10,5 millions de followers sur X, il est le gourou des masculinistes, il est accusé de viol et de trafic d'humains en Roumanie. Il est souvent un protagoniste de Ma Veille Sanitaire. L'influence britannico-américain Andrew Tate n'a décidément pas fini de faire parler de lui. Alors que son procès à Bucarest vient d'être décalé au printemps prochain pour des des irrégularités. Andrew Tate en a profité pour se lancer en politique. Il a créé son propre parti, BREV, pour Britain Restoring Underlying Values, en gros pour que la Grande-Bretagne retrouve ses valeurs traditionnelles. Il l'a annoncé sur son compte X il y a quelques jours et depuis, tous ses posts tournent autour de ça. Il a changé sa bio en Premier ministre de Grande-Bretagne. Il a créé un compte spécial Vote Brave qui cumule déjà plus de 135 000 abonnés. Il y publie des vidéos où il parle de son parti en se mettant en scène comme un vrai homme politique. Je vous laisse écouter un extrait.
Les chances que je sois Premier ministre dans les 10 prochaines années sont de 100%. Je suis l'homme le plus connu au monde, je m'autofinance et je vais sauver le pays dans lequel j'ai grandi, la Grande-Bretagne, comme Donald Trump et Elon Musk sont en train de sauver les États-Unis.
Alors, ça peut paraître un peu absurde quand on l'entend comme ça. On se dit que c'est juste un mégalomane de plus. Mais ce premier pas en politique n'est pas à prendre à la légère. Cette vidéo a été vue plus de 1,3 million de fois. Les milliers de commentaires en dessous l'applaudissent. Et il a en plus un soutien de taille.
Je crois deviner de qui il s'agit.
Toujours le même, Elon Musk, patron de X, nouveau BFF de Trump. Sous une vidéo où Andrew Tate parle de sa nouvelle lubie politique en critiquant le gouvernement britannique, le milliardaire a commenté « il n'a pas tort ». Il faut dire que le timing de Andrew Tate arrange bien Elon Musk. Et ça, c'est à se demander si ça n'a pas été prémédité par les deux hommes. Car depuis le début de l'année, Musk multiplie les attaques contre le premier ministre britannique, le travailliste Keir Starmer. Dans des centaines de messages sur X, Musk s'en prend à Starmer en disant qu'il faut qu'il aille en prison, qu'il est maléfique et que c'est une honte pour son pays. Il a notamment ressorti une vieille affaire qui avait secoué l'Angleterre, l'affaire dite des grooming gangs, des gangs principalement composés d'hommes d'origine du Pakistan qui ont abusé de mineurs entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Keir Starmer était à la tête du parquet à ce moment-là et pour Musk, il n'aurait pas agi en conséquence.
Mais quel rapport avec Andrew Tate ?
Eh bien, c'est une affaire de timing. Car si Musk affiche sa haine pour Keir Starmer depuis quelques temps, il avait jusqu'ici soutenu le parti ultra-conservateur et anti-immigration Reform UK, dirigé par Nigel Farage, un proche de Donald Trump. Mais ça, c'était avant. Depuis dimanche dernier, il a lâché Farage en disant qu'il fallait que le parti change de dirigeant. Et coïncidence, c'est pile à ce moment-là qu'Andrew Tate débarque avec son parti et sa nouvelle lubie d'être le Premier ministre anglais. Difficile de ne pas y voir un lien. Je rappelle que Musk a joué un rôle important dans la réélection de Donald Trump. Qui sait ce qui pourrait se passer s'il s'investissait autant pour Andrew Tate ?
Mais il a un programme, au moins.
Eh bah oui, il l'a balancé en intégralité sur X. Le programme conservateur par excellence, plus d'immigration illégale, plus de propagande LGBTQIA+, dans les écoles, retour aux valeurs traditionnelles, limiter l'accès à la santé aux citoyens anglais, plus d'aide pour les pays étrangers, notamment l'Ukraine. Et en bon mascu, il veut aussi instaurer l'enseignement de la boxe et de la lutte à l'école pour, je sais, restaurer la masculinité et la force. On parle d'Andrew Tate quand même.
C'est la moindre des choses.
Et puis, Tate se compare souvent à Donald Trump, notamment sur le fait que personne ne le prenait au sérieux au départ et qu'il est devenu président deux fois. Pour lui, c'est sûr, il suivra cette destinée. Et c'est vrai que les deux hommes ont des points communs. Des anciennes stars de télé, conservateurs, misogynes, transphobes, accusés de viol, adoubés sur les réseaux. Et ils sont maintenant soutenus par l'homme le plus riche du monde. La semaine dernière, Emmanuel Macron a accusé Musk, sans le citer, de soutenir une nouvelle internationale réactionnaire, notamment en Europe. Sachant que le milliardaire soutient aussi ouvertement le parti d'extrême droite allemand, l'AFD, quand on voit ce qu'il se passe avec Andrew Tate, on se dit que tout ça ne fait que commencer.
Merci beaucoup Manon Marié pour cette veille sanitaire. Il nous a rejoint en studio toujours plus fashion. Je ne sais pas où vous allez chiner ces petites pièces, mais c'est de toute beauté. Bonjour Merwan Manlazar.
Bonjour tout le monde, je ne suis qu'une escroquerie, la Vallée Village, tout est moins cher.
La chronique de Merwan Manlazar, c'est juste après Lola Young, Wish You Were Dead sur Inter. When you come around,
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
6h du matin dans le Lot-et-Garonne. Dans un champ abandonné, les agriculteurs se rassemblent. C'est le branle-bas de combat. Sirotant des bières brassées d'orge qu'ils ont cultivées eux-mêmes, ils attendent l'avènement d'un leader, un représentant, un homme digne de leur terre et de leurs valeurs. C'est alors qu'émerge la fierté de Radio France, le joyau du service public, la ceinture abdominale saillante et le visage lumineux. Il est là, Merwan Ben Lazar.
Bah, vous avez l'air surpris qu'on parlait de moi depuis le début, mais oui, c'est moi, le nouveau leader, celui dont l'agriculture française avait besoin, car oui, l'agriculture française va mal, les agriculteurs ne font plus un rond, c'est terrible, des exploitations fermes, ils sont endettés, certains vivent du troc, et il y en a même, excusez-moi, j'ai un peu du mal à en parler, qui en sont réduits à ouvrir des chaînes YouTube à côté de leurs exploitations. Bonjour Étienne. Et Étienne, merci d'être là, on a réussi ensemble le miracle de trouver encore plus pauvre qu'un prof, et je sais de quoi je parle, ma meuf elle est prof en REP, et c'est très grave, hein. Elle se nourrit essentiellement de yaourts volés à la cantine et de nourriture confisquée aux élèves. Si, c'est très pratique pendant la récréation, elle fait des cartables, mais j'aurais peut-être pas dû le dire, mais en fait, dans ce pays, plus t'es essentiel, moins t'es respecté. Et restez sur France Inter, car à 18h, on reçoit Thibaut. Il est pompier, décoré de la Légion d'honneur, mais il subsiste grâce à son compte Vinted. Ça va être super. Ouais. C'est Farid qui m'a parlé de lui. Il a réussi à chiner un pantalon ignifuge pour 35 euros. Moi, j'ai pris un casque. Mais Étienne, enchanté, c'est de vous qu'on parle. Vous êtes un agriculteur 2.0. Je sais que c'est un peu réducteur comme thème. Vous êtes plus que ça, mais vous avez une ferme du futur. Vous êtes équipé de capteurs satellites, de colliers connectés sur des vaches qui sont traits par des robots. Oh, ça va Elon Musk, mais vous étudiez même la génétique des vaches pour optimiser l'accouplement, vieux pervers. Il y a des vidéos, c'est filmé, mais non, j'arrête de vous provoquer, j'arrête, je le provoque pas trop, je connais les traditions de ce peuple-là, ma maison elle va se retrouver recouverte de fumier, mais si, vous adorez jeter du caca, bravo, vous adorez jeter du caca, Étienne, merci.
C'est une passion.
Bah, okay, c'est ma chronique, parle pas, mais je pose des questions, mais c'est pour de faux. Mais ça fait partie de vos faces, je rigole, ça fait partie, j'ai peur de premier degré, mais vous avez déjà vu des mains d'agriculteurs, mais ça fait partie de vos façons de faire, c'est ça, c'est les jetés de caca. Et un truc qui m'a régalé, que j'ai découvert sur votre chaîne YouTube, quand vraiment vous êtes énervé, quand la société vous met dos au mur, quand ils font répondre à des problématiques sociales, vous retournez les panneaux de signalisation. Oh, on a affaire à des dingos là, hey, pas trop peur des conséquences, alors ici c'est limité à combien, 90? Eh non, 06, allez, la France est ralentie, tremble gouvernement, tout le pays est en 05. Mais je comprends votre colère, en vrai de vrai, je suis 100% avec vous, mais depuis ici, je vais pas aller salir mes Air Max toutes neuves dans ta ferme pleine de boue, mais vous avez l'impression de travailler pour rien, vous avez l'impression d'être dévalorisé, rassurez-vous, c'est le résultat, c'est tous les Français en fait en ce moment. Désolé Étienne, tu n'es pas spécial. Mais avant ça, moi-même j'ai fait des boulots avant. Vous l'agriculture encore, c'est cool parce que ça vous anime et tout. Moi j'ai fait des boulots que j'avais pas envie de faire et je me rappelle que j'étais un peu en détresse. J'ai taffé au McDo, ça me rendait fou alors que c'est ça que je voulais faire à la base. J'ai été surveillant et c'est fou parce que tu fais pas de fric. Sur ce pas de fric, on te prend du fric. Sur ce qui te reste du pas de fric après qu'on t'ait pris le fric, les impôts. Et ben là, il y a encore des impôts sur le fric que tu vas dépenser. Et ça s'arrête jamais. Et tu te dis, c'est pas grave, parce qu'en fait, tu le fais pour la collectivité, tu le fais pour avoir un service public de qualité, genre. Puis tu te dis, tu sais quoi, on a un service public de qualité, je vais écouter la radio, et tu mets France Inter, et tu tombes sur ma chronique à la con, et tu te dis, mais putain, mais où il va tout cet argent? Et Gérard Larcher s'achète un siège à 34 000 euros. Voilà où il va l'argent. Et oui, Gérard Larcher, je mets pas de photos sur le truc, parce que j'ai peur qu'Étienne nous dise, oh, j'en ai un comme ça à la ferme. Mais Gérard Larcher, tu le laisses 5 minutes avec Étienne, il ressort avec un collier connecté. Hein, c'est sûr et certain. Oh, si, on l'entend sûr. Un génome comme ça, faut pas laisser partir. Mais votre travail, il est incroyable. C'est du savoir-faire transmis de génération en génération, de la minutie au point où on utilise des satellites aujourd'hui et tout. C'est incroyable. Je vous arrive pas à la cheville. Moi, j'ai une chronique par semaine et j'arrive à merder. La semaine dernière, j'ai fait 3 minutes de trop. Et là, je crois que je suis encore en train de faire une minute de moins. Pardon, on arrête. Une minute de silence pour l'agriculture. Et vous, une minute de silence pour votre être cher que vous avez perdu la semaine dernière, Mathieu.
Qui est mon être cher?
Le Pen.
Le Pen.
Oh mon Dieu! Une attaque si perfide, j'arrivais même pas à l'appréhender. Merci quand même, Merwan Ben-Lazare, pour ce joli dépassement d'horaire. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Étienne Fourmont. Je rappelle votre chaîne YouTube, Étienne Agri YouTuber. Est-ce que vous savez déjà de quoi va parler votre prochaine vidéo?
Des vaches, pour pas changer.
Pour pas changer.
Parce que c'est mon métier.
Évidemment. La crise agricole, on va continuer d'en parler sur Inter à 19h. Le téléphone sonne, il sera consacré au sujet. Qui seront les agriculteurs de demain? Merci encore Étienne d'avoir été avec nous cet après-midi sur Inter. Merci à tous les amis, Manon, Marie, Quentin, Cyril, merci aussi à Anne-Laure Cochet à la technique, Étienne Bertin à la réalisation, sans oublier ceux sans qui rien ne serait possible, Florence Jumalac, Alexis Lacour, Pierre Courade, Romain Bonifaci, Lola Auvert, Gérald Darnaud, la voix française d'Andrew Tate, un sacré promotion pour Gérald cet après-midi. Demain, pour zoomer sur le discours de politique générale de François Bayrou, on sera en compagnie du seul Premier ministre qui connaît mieux le répertoire de Johnny Hallyday que Cyril, Jean-Pierre Raffarin. Ah. Zoom Zoom Zen.